Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à San Francisco où une cour d'appel confirme la suspension du décret anti-immigration du président Trump. Téhéran avec l'Iran qui lance des missiles qui testent les États-Unis, s'attirant au passage des sanctions américaines. Jérusalem, une loi va permettre à l'État juif de s'approprier des terres palestiniennes en Cisjordanie pour y installer des colonies. Et puis Alba, dans le nord-ouest de la Syrie avec l'État islamique bien assiégé. Et donc, c'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Philippe Moreau-Desfarges. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Chercheur à l'IFRI, auteur de La géopolitique pour les nuls, en livre de poche. Avec nous également François Hesbourg. Bonjour François.
Bonjour.
Conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique avec ce livre sorti l'an dernier. Hélas, toujours d'actualité. Comment perdre la guerre contre le terrorisme. Alors, oui, 7 jours, je vous le disais, qui va démarrer une fois de plus avec les États-Unis et ce revers majeur subi par le président Trump qui a signé, vous savez, il y a 2 semaines maintenant, ces décrets anti-réfugiés, anti-immigrés, bref, anti-musulmans, qui avaient choqué le monde, provoquant le chaos dans les aéroports, des manifestations dans tout le pays. Alors, c'était le week-end dernier, donc tout d'abord, quand un juge fédéral de Seattle, un juge plutôt conservateur, suspendait la mesure et permettait donc le retour des bannis, estimant que cette mesure, elle aurait un impact sur l'emploi. Colère de l'administration Trump, qui a fait appel, et donc justement, jeudi, 3 juges de San Francisco, à l'unanimité, confirmaient cette suspension. Le procureur général de l'État de Washington.
Ce décret présidentiel a été peu réfléchi, peu préparé. Ce n'est pas seulement moi qui m'exprime, ce sont aussi des membres républicains du Congrès. Ce décret a créé le chaos parmi les gens. Nous respectons l'autorité du président lorsqu'il s'agit de publier des décrets présidentiels, mais ils doivent toujours suivre la Constitution. C'est essentiel.
C'est essentiel, dit ce juge. Donc, la procédure, elle est loin d'être terminée. C'est au final la Cour suprême qui pourrait être amenée à trancher. Évidemment, pas tout de suite. Alors, décision politique, voilà le commentaire immédiat de Donald Trump, celui qui rencontre son premier vrai échec depuis son investiture. Il était avec quelques journalistes jeudi soir.
C'est une décision politique. Nous allons les voir au tribunal. J'ai hâte.
Donc vous pensez que les juges ont pris une décision inintelligible ?
Nous sommes dans une situation où la sécurité de notre pays est en jeu. Et c'est une situation très, très sérieuse. Donc comme je viens de le dire, nous verrons cela au tribunal.
Bon, alors, situation sérieuse, François Hesbourg, c'est ce qu'il dit, Donald Trump, mais les juges, ils considèrent que le gouvernement n'a pas démontré qu'un étranger venant de ces 7 pays, en l'occurrence Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Soudan et Yémen, ait perpétré un attentat aux États-Unis.
Aucun des terroristes du 11 septembre ne venait de l'un quelconque de ces pays et parmi les nombreux attentats déjoués aux États-Unis et les quelques attentats récents qui y ont eu lieu, et bien les gens ne venaient quasiment pas de ces pays.
San Bernardino, c'était une famille d'origine pakistanaise. La boîte gay d'Orlando, c'était une famille d'origine afghane. Voilà.
Absolument. Mais pour Trump, c'est pas ça le sujet. Trump veut se mettre dans la situation et en termes de gestion politique, est une situation gagnant-gagnant au plan politique. Et soit les juges bloquent son ordre à la fin des fins, et s'il y a un attentat, ce sera de la faute des juges. Et soit les juges plient et laissent l'affaire se dérouler, auquel cas c'est tout bénéfice pour Trump. Donc, dans le sens le plus étroit du terme, politiquement, cette affaire est malheureusement bénéfique pour lui, même si elle est très mauvaise pour les États-Unis. Positionnement moral, positionnement stratégique, positionnement économique, les États-Unis perdent sur tous les plans et avec cette décision qui est fondamentalement absurde.
Ouais. Donc finalement, Philippe Moreau-Desfarges, vous êtes d'accord que ce n'est pas forcément un camouflet pour le président Trump ? Parce que j'ai l'impression quand même que les juges lui disaient quelque part, ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas faire ce que vous voulez. Même si Trump, en permanence, s'abrite derrière quoi ? Derrière le suffrage universel, derrière ses électeurs qui l'ont porté au pouvoir.
Oui. Non, mais il y a un enjeu plus important derrière ça. Je dirais, c'est l'équilibre même de la Constitution. D'un côté, il y a un président des États-Unis qui a certains pouvoirs et qui les utilise comme il l'entend. Et de l'autre côté, il y a les juges. Et j'ai envie de dire à M. Trump, relisez les travaux des pères fondateurs. C'est-à-dire, à la fin du XVIIIe siècle, les pères fondateurs qui ont établi la Constitution américaine se sont beaucoup poser cette question de l'équilibre des pouvoirs. Et c'est clair qu'ils ont voulu qu'il y ait un pouvoir judiciaire important et qui lui est contraire. Surtout qu'il y a des souvenirs. N'oubliez pas, il y a eu deux moments assez forts. Il y a eu le New Deal. À l'époque du New Deal...
Donc là, c'est Roosevelt.
Roosevelt a pris un certain nombre de mesures sociales et la Cour suprême les a bloquées. Finalement, ça s'est réglé par un compromis parce que, au fond, sagement, Roosevelt a arrêter ces mesures, a compris, il n'a pas attaqué de front la Cour suprême, et puis beaucoup de juges sont partis à la retraite. Mais ce que met en cause Trump, c'est plus grave, c'est-à-dire il met en cause l'intégrité des juges. Or, nous sommes dans un système, qui est le système institutionnel américain, où les juges, si vous voulez, ont une espèce de conscience morale. D'ailleurs, ce qu'a souligné ce que vous avez montré...
Le juge de la Cour de Washington.
C'est-à-dire, j'ai même eu des juges conservateurs pour cette décision. Donc, il y a une volonté de respect du droit. Donc, ça va aller devant la Cour suprême. Moi, je trouve que cette affaire est quand même une bonne affaire pour tester la capacité du système américain à résister à un homme.
Donald Trump, il avait oublié comme ça qu'il pourrait faire fi de ses contre-pouvoirs, les juges, peut-être le Congrès à terme, Françoise Bourg ?
En fait, nous ne le savons pas. Et les calculs que j'évoquais il y a quelques instants s'accommodent très bien des débordements anti-juges de Trump. Hein, ces tweets épouvantables qu'il envoie en disant ce soi-disant juge ou les tweets de jeudi soir.
Sauf qu'en San Francisco, ils étaient trois cette fois. C'était pas des soi-disants.
Qu'il a mis en majuscule. Ouais. Il a tout mis en majuscule.
Ouais, bien sûr. Pour exprimer sa colère. Voilà,
comme si le fait de mettre le truc en majuscule lui donnait davantage de valeur. Je ne pense pas que sur cette affaire, Trump va tenter un coup d'État. Et je pense qu'à la sortie, effectivement, c'est la justice qui aura le dernier mot. Ce sera la Cour suprême, le cas échéant. Mais encore une fois, en termes de gestion politique, Trump, vis-à-vis de sa base, aura montré qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait, empêcher les musulmans de rentrer aux US, hein, pour faire court. Vous vous souvenez de la séquence pendant la campagne où tout le monde disait non, jamais il va faire
ça.
Ce sont des propos de campagne.
Mais non,
ce ne sont pas des propos de campagne. Et si les juges l'en empêchent, il pourra toujours dire s'il y a un pépin,
c'est de la faute.
C'est de la faute de ces libéraux, de ces bisounours.
Il joue quand même avec
le
feu.
Hein. C'est dramatique.
Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. J'ai envie de dire, il paraît presque qu'il y aura un attentat pour prouver que les juges.
Ouais, c'est malheureux.
Mais néanmoins, je le répète, il faut. C'est un pari. Il faut faire confiance dans le système américain. Il y a quand même un système institutionnel américain qui est fort et espérons qu'il va résister à Trump.
Et même le fameux juge Gorsuch, juge nommé par Donald Trump à la Cour suprême, qui a qualifié les commentaires de Donald Trump sur Twitter de décourageant. Voilà, lui-même a exprimé des réserves. Alors, sans oublier aussi, quand même, important, la mobilisation du peuple. On assiste depuis l'investiture, donc depuis un mois, à toutes sortes de manifestations, souvent étoffées, ces manifestations, la marche des femmes, c'était le lendemain de l'investiture, rassemblement contre les décrets anti-immigrés dans les aéroports, rassemblement contre le mur avec le Mexique. Est-ce que vous avez l'impression qu'une sorte de résistance s'organise dans le pays, Françoise Bourg?
Écoutez, le président, c'est Trump. Il a été élu dans le cadre du système qui est le système américain. On peut toujours dire il n'a pas eu la majorité des votes populaires et ainsi de suite.
C'est le système. Il a eu les grands électeurs. Voilà, c'est comme ça.
Il est élu. Voilà. Tant qu'il ne fait pas un coup d'État. Et j'emploie le mot coup d'État dans son sens le plus strict.
C'est quoi un coup d'État?
Un coup d'État, c'est il envoie des gens en armes fermer les portes de la Cour suprême. C'est un coup d'État. Et il se met hors constitution. Ou si on prend une version un tout petit peu plus soft, mais avec des conséquences qui ne le sont pas forcément, il fait adopter par le Congrès l'équivalent
de l'article 16. Chez nous, les pleins pouvoirs, en même temps.
Non. Il fait ce qu'avait fait le gouvernement de Hitler en mars 1933, et qui était un acte d'autorisation de prise et de plein pouvoir et par le chef de l'exécutif et à durée indéterminée. Ça, c'est un coup d'État légal. Et tant qu'il ne fait pas ça, et dans les domaines où les checks and balances existent, et ça, c'en est un. Là, pour le coup, le système judiciaire fonctionne. Et eh bien, il faut faire confiance au système. Je suis d'accord avec Philippe. C'est dans les domaines où ça ne joue pas, c'est-à-dire en politique internationale, de sécurité et de défense, et où là, Donald Trump bénéficie en tant que chef des armées, c'est à peu près le même système que chez nous, hein. Il peut, là, pour le coup, faire n'importe quoi.
Je crois qu'il y a, aux États-Unis, moi, j'ai confiance dans les États-Unis. Je crois que chez les juges américains, et notamment chez ce nouveau juge qu'a nommé Donald Trump, il y a une conscience de son rôle, de son statut. Et même s'ils ont des convictions particulières sur l'avortement, je pense qu'ils ont le souci de rester dans la dignité
de leur rôle. Donald Trump qui mène l'offensive alors contre les juges, donc accusé sur Twitter de mettre en péril la sécurité des États-Unis, contre les journalistes, décidément c'est assez tendance de part et d'autre de l'Atlantique en ce moment, accusé ces journalistes de ne pas rendre compte suffisamment des attaques terroristes à travers le monde, les journalistes qui n'auraient pas parlé de Nice, de Berlin, de Paris, d'Orlando, bon, faux évidemment. Revers pour Donald Trump donc sur cette politique migratoire, puis confusion peut-être également sur la politique diplomatique, vous allez me dire l'un et l'autre, François Hesbourg et Philippe Moreau-Desfarges. Déjà la semaine dernière, changement de position sur la Russie, considérée finalement comme un danger par l'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice américaine aux Nations Unies. Mise en garde à Israël sur sa politique de colonisation, on va y revenir d'ici 15 minutes à peu près. Et puis je vous dis, tiens, important, sur la Chine, nouveau revirement de taille. Coup de téléphone, Xi Jinping, Trump, le président apaisant, rassurant Pékin, en lui disant qu'il respecterait le principe de la Chine unique, interdisant donc tout contact diplomatique avec des ennemis, et puis évidemment avec Taïwan. Et c'est vrai qu'on se souvient de ce coup de téléphone de la présidente taïwanaise, quelques jours après l'élection de Trump, au mois de novembre, à ce qui avait fait bondir la Chine, François Hesbourg.
Oui, et je reviens en arrière un instant, parce que vous parlez de la façon dont Trump s'en prenait à la presse.
Ah très bien, allez-y.
À les médias. Et notamment sur l'affaire des actes de terrorisme qui n'auraient pas été suffisamment rapportés par la presse. Et il est malheureusement très efficace dans son registre. Et les médias ont réagi de façon défensive. Ils ont répondu en disant « c'est pas vrai ». Et ils se sont trouvés dans la situation de devoir égrener toute la liste des attentats dont ils avaient effectivement parlé et, le cas échéant, dire lesquels dont ils n'avaient pas parlé. Et alors que des institutions, et les médias sont une institution qui aurait été moins désarçonnée, moins sur les défensives, aurait eu intérêt à changer le champ de bataille. C'est-à-dire, on aurait dit, mais le problème, c'est pas que nous parlons insuffisamment des actes de terrorisme, c'est peut-être qu'il y a parfois une surmédiatisation des actes de terrorisme. Le terrorisme prospère et fleurit grâce à la caisse de résonance médiatique, en partie. Les médias doivent bien entendu dire ce qui est, j'allais dire, si on peut leur faire une critique, ce serait plutôt sur le thème.
On en fait trop. Tout ça peut donner des idées.
Et puis on fait des commémorations aux victimes toutes les trois semaines, et on en rajoute, et on contribue à la création d'une atmosphère d'angoisse disproportionnée.
La Chine, revenons sur la Chine. Revirement de taille de la part de Trump. Nouveau revirement donc du président. Qu'est-ce qui a poussé Donald Trump finalement à revenir en direction de la Chine? Il y a vraiment un signe de réconciliation avec Pékin?
Le revirement, à la limite, a de l'importance comme un revirement. C'est-à-dire que Trump, si la branche sur laquelle il est installé, c'est vrai qu'en politique étrangère, on ne vous pardonne pas des variations. Donc, Trump, à travers ses revirements, apparaît soit comme un homme qui est en porte-à-faux par rapport à son administration, soit un homme qui ne contrôle pas ses propos. Et ça, c'est impardonnable. Et là, je crois que c'est, si vous voulez, ce jeu, ces revirements, loin de le conforter, donnent le sentiment, notamment en Chine, que c'est un type un peu aléatoire.
Il y a quand même comme ça une improvisation ou pas dans la politique étrangère, ces revirements, François Hesbourg, jour après jour, sur la Russie, sur Israël, sur la Chine. Qui croire finalement, Rex Tillerson, James Mattis, le président Trump, c'est quoi?
Il y a un paradoxe. Si le président des États-Unis avait été Poutine, dans un instant, il aurait pu se dérouler exactement la même séquence. La provocation, le coup de fil taïwanais, et puis ensuite... on finit par revenir au statu quo ante. On crée un problème et puis on le résout. Ça, c'est une approche poutinienne des affaires étrangères. Dans le cas de Trump, je crains que ça ne soit pas pensé de cette façon. Je crois effectivement beaucoup plus à ce qu'a dit Philippe Moreau-Desfarge, à savoir à le caractère fantasque de l'individu capricieux.
Heureusement qu'il a Rex Tillerson, heureusement qu'il a James Mattis, qui vont le canaliser.
Et pas du tout rassurant pour les Chinois, parce qu'effectivement, il va être sujet, il va être ballotté constamment entre son fasciste à domicile, c'est-à-dire Steve Bannon, et son chef du Conseil national de sécurité semi-dysfonctionnel, le général Flynn, et le très remarquable secrétaire à la Défense, Mattis, il est très bon, et un Tillerson qui est encore en train d'apprendre le métier. Alors, c'est pas formidable comme casting comme pour le moment.
Juste un mot avant qu'on aborde aussi les tensions avec l'Iran. Quelle interprétation vous donnez à cette visite de Shinzo Abe aux États-Unis, Washington, puis un week-end de golf, donc, avec Trump en Floride? Le Japon, il a besoin d'être rassuré par les États-Unis, Philippe Moreau-Desfarge?
Bien sûr, le Japon est dans une situation épouvantable. C'est-à-dire, le Japon, au moins depuis les années 70, regarde les deux colosses, Pékin et Washington, négocient en l'ignorant. Si on se souvient de ce qui s'est passé dans les années 70, où lorsque Nixon est allé à Pékin, on n'a pas prévenu les Japonais. Les Japonais apprenaient tout presque par la presse. Donc les Japonais sont évidemment très inquiets, et Shinzo Abe est obligé d'aller à Washington. Dernière chose, quand Trump évoque l'acquisition de l'arme nucléaire par le Japon, pourquoi pas, mais enfin, ce serait un coup de tonnerre que le Japon n'a peut-être pas les moyens de faire.
François Hesbourg.
Les Japonais, comme les Coréens du Sud, sont mortellement inquiets. Le mot mortellement n'est pas une clause de style. Et Trump signale, depuis qu'il s'exprime sur le sujet, c'est-à-dire depuis 15 ans, que les alliances des États-Unis sont transactionnelles, elles sont précaires et révocables. et que c'est d'ailleurs pour ça que Trump considère qu'il est inévitable, pas souhaitable, mais inévitable que le Japon et la Corée du Sud acquièrent un jour l'arme nucléaire. Il a une pensée construite là-dessus, Trump, là pour le coup, et depuis longtemps. Et donc, les Japonais et les Coréens du Sud, je pense que derrière les rideaux, il y a effectivement des gens qui doivent regarder de très près les options alternatives, que ce soit l'apaisement vis-à-vis de la Chine ou que ce soit, le cas échéant, dans le cas de la Corée du Sud notamment, l'option nucléaire.
Bien sûr. Alors, un pays en revanche avec qui les relations ne sont pas tellement au beau fixe, c'est l'Iran, qui fêtait donc cette semaine et ce week-end le 38e anniversaire de la révolution islamique. L'un des 7 pays de la liste de Donald Trump, vous savez, ce qui a d'ailleurs fait réagir vivement le guide suprême Ali Khamenei.
Nous sommes reconnaissants envers cet homme. Nous le remercions car il rend les choses plus faciles pour nous. Il a montré le vrai visage de l'Amérique.
Voilà, l'Iran qui a de nouveau mené des exercices militaires dans le sud-est du pays cette semaine, tirait encore des missiles de courte et moyenne portée. C'est pas la première fois, à tel point que Donald Trump donc a pris des sanctions contre une vingtaine de responsables iraniens soupçonnés d'apporter un soutien donc à cette expérience balistique. L'Iran accusé par la Maison Blanche de soutenir le terrorisme, mais on sait que Trump veut déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. C'est quoi la réalité des tensions entre l'Iran et les États-Unis?
Les missiles balistiques, c'est vraiment du détail. C'est de la gesticulation, et c'est vrai que dès qu'un nouveau président des États-Unis arrive au pouvoir, l'Iran fait de la gesticulation, premièrement. Il y avait vraiment un processus de rapprochement des États-Unis de l'Iran et une normalisation de l'Iran. Clairement, Trump, délibérément ou pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dans la tête, casse ce processus. Donc il pousse véritablement l'Iran vers une réaction extraordinaire. Il faut rappeler un point qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure. Je vous rappelle que le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire. C'est un enfant des États-Unis, et c'est vrai de l'Union soviétique, mais c'est les États-Unis qui ont voulu empêcher la prolifération. Or, Trump, à travers le cas du Japon, de l'Iran ou même de la Corée du Sud, pousse à la prolifération. Il y a quelque chose là qui est un peu préoccupant.
Oui, le président Rouhani, c'était vendredi matin, à l'occasion de ces cérémonies du 38e anniversaire, les Iraniens feront regretter le langage de la menace. L'Iran teste la résistance des États-Unis, l'un et l'autre se jauge-t-il, François Hesbourg ?
En ce moment, tout le monde jauge les États-Unis, vous le voyez en Ukraine, où les Russes et les Ukrainiens sont en train de faire monter la tension dans le Donbass, non pas parce qu'ils vont bouleverser la situation, mais pour voir comment les Américains vont réagir. Et il en va de même du côté iranien. Si le jeu était purement américano-iranien, avec dans un triangle où le troisième partenaire serait la Russie, le processus d'ajustement serait assez compliqué, puisque la Russie est alliée avec l'Iran et que Trump veut dealer avec Poutine. Le problème, c'est que l'Iran est au Moyen-Orient. L'Iran est dans un combat mortel, jugé comme tel, en tout cas, par les pays sunnites du Golfe.
Et notamment l'Arabie Saoudite.
Et notamment l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train de perdre sur tous les fronts. Au Yémen, en Irak, en Syrie. Et ce sont les puissances faibles, les puissances déclinantes, comme l'Arabie Saoudite, et qui provoquent les guerres. Hein, c'est l'Autriche-Hongrie en 1914.
Vous voulez dire quoi ?
Et pour moi, la vraie inquiétude, c'est qu'il y a une provocation et de la part des Saoudiens, afin d'engrainer les Américains dans une confrontation avec l'Iran.
Oh.
Oui, parce que la sécurité de l'Arabie Saoudite dépend des États-Unis. Pour arrimer les Américains, rien de tel qu'une grosse tension et pouvant aller jusqu'à la guerre avec l'Iran. Ça, c'est à l'heure actuelle, c'est probablement mon sujet d'inquiétude numéro un dans le monde post-Trumpien.
Plus que la mer de Chine méridionale.
Où effectivement le coup de fil Xi Jinping-Trump, entre guillemets, met de côté le problème.
Permet d'apaiser un peu.
François Hesbourg a totalement raison, parce que vraiment, disons, la Chine est un acteur relativement rationnel, Chine est un acteur relativement prudent.
Et puissant.
Mais ce que dit François Hesbourg sur le Moyen-Orient, j'ai envie de poser une question, puisque François Hesbourg l'a mis sur la table. Est-ce que les États-Unis ne sont pas aussi une puissance déclinante ? Est-ce que Trump, le comportement de Trump, n'est pas le comportement d'un président d'une puissance déclinante ? Ça, c'est une vaste question.
Réponse, François Hesbourg.
Ce qui m'a le plus frappé dans son discours inaugural le 20 janvier, qui a été beaucoup commenté par ailleurs, c'est qu'il n'y avait pas une once d'optimisme dans ce discours. Et bien sûr, on peut faire des discours où on promet du sang, de la sueur et des larmes, et il y en avait pas mal. Mais en général, Churchill, lui, il terminait en disant « mais ça va nous permettre de retrouver les hauteurs ensoleillées ». Il employait ce type de formule. Et là, il n'y avait rien de tel. C'était « tout est noir et ça continuera d'être noir, et avec moi, ça va être plus noir que jamais ».
Bon, on va retrouver François Hesbourg dans un instant, auteur de « Comment perdre la guerre contre le terrorisme ». Philippe Moreau-Desfarges également, la géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Et à suivre dans 7 jours dans le monde, dans un instant sur BFM Business, à la télé et à la radio. Est-ce qu'Israël veut annexer la Cisjordanie ? Est-ce que l'offensive se poursuit en Syrie contre l'État islamique ? Quelle sera la prochaine étape ? On continue dans un instant.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, pour revenir sur toute l'actu internationale de la semaine avec Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, auteur de la géopolitique pour les nuls. Tiens, profitez-en pour ceux qui sont en vacances encore cette semaine qui démarre. Et puis François Hesbourg qui vous propose comment perdre la guerre contre le terrorisme. Elle livre évidemment toujours malheureusement d'actualité. On voit toutes ces menaces donc qui pointent sur la France. On a vu ces arrestations à Montpellier encore vendredi matin. Alors Donald Trump, on en a largement parlé dans la première demi-heure. Est-ce qu'il a donné des ailes aux plus extrémistes religieux juifs en Israël ? Oui, apparemment, et il le revendique. Depuis son investiture, le gouvernement à Jérusalem a procédé à l'annonce de 6000 logements pour les colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est annexée. C'est pas fini, puisqu'une loi, elle a été votée lundi. Elle autorise à déclarer terres israéliennes des terrains privés palestiniens sur lesquels des Israéliens ont construit sans autorisation en Cisjordanie occupée contre quelques compensations, ce qui a fait réagir de nombreuses capitales européennes, Paris notamment, et bien sûr bondir les responsables palestiniens comme évidemment le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
Cette loi est contraire au droit international et à la loi internationale. Nous allons travailler avec les tribunaux internationaux pour préserver notre existence et nos terres. Nous n'acceptons pas les dernières déclarations du gouvernement israélien sur la construction de milliers de logements dans nos terres occupées depuis 1967.
Voilà, Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Philippe Moreau-Desfarges, on n'est pas très très loin de la notion de vol, hein, quand même. Pourquoi prendre une telle loi qui ne va pas contribuer à l'apaisement, bien sûr ?
Israël s'est mise dans une politique qui est la constitution d'une espèce de forteresse israélienne. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à plusieurs années. Il y a cette espèce de dynamique de créer une forteresse et surtout de fragmenter la Palestine. Il faut fragmenter la Palestine pour rendre ce qu'on appelle la politique du léopard, c'est-à-dire faire d'une peau de léopard.
Ces tâches avec les colonies en Cisjordanie, bien sûr.
Alors, comme toutes les politiques, elle était à la fois imposée par les colons et voulue par le gouvernement. Et il y a une logique. C'est vrai que la logique, c'est qu'il y a soit il y a une annexion de la Cisjordanie, soit une annexion de morceaux de la Cisjordanie.
Pardon, Philippe Moreau-Desfarges. Le gouvernement israélien songe-t-il, comme certains ministres du gouvernement Netanyahou, à une annexion de la Cisjordanie ?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le gouvernement israélien, Netanyahou est un modéré. Donc Netanyahou ne se bat pas contre des partisans de la paix, il se bat contre des partisans de l'annexion pure et simple.
Comme le foyer juif, par exemple.
Voilà, comme foyer juif. Et c'est vrai qu'il est dans une position très difficile. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de fuite en avant de la part d'Israël qui est très inquiétante. Alors, le soutien de Trump, il vaudra ce qu'il vaudra. Hein.
Oui, François Esbour.
Oui, je pense que la fuite en avant est paradoxalement encouragée par le fait que les Israéliens concernés, les extrémistes, sont en fait inquiets de ce que pourrait faire Trump. Ah, oui. On n'est pas. Trump n'a pas dit allez-y les gars, vous prenez ce que vous voulez et je vous soutiendrai. Je vous
aiderai. Au contraire, depuis dans un journal israélien, Trump expliquait il y a quelques heures que cette politique d'implantation n'est pas bonne pour la paix.
Voilà. Donc il faut saisir autant de gages que possible avant que la politique américaine ne se fige. Et tous les signes jusqu'à présent sont que Trump et son entourage voudraient, dans le cas d'espèce, revenir à ce qu'avait été la politique de George W. Bush vis-à-vis des colonies de peuplement, c'est-à-dire OK pour celles qui sont d'un côté du mur et pas OK pour celles qui sont de l'autre côté du mur. Vous avez montré une carte il y a quelques instants, je ne sais pas si la régie peut la repasser.
Probablement
pas. Et tout ce qui était d'un côté de la ligne rouge sur la carte, et les États-Unis ne se mettraient pas en travers, mais pour ce qui est de la peau de léopard, qu'évoquait très justement Philippe Moreau-Desfarges, c'est non. Donc les extrémistes...
Alors voilà, pour ceux qui nous suivent à la télé...
Voilà, vous voyez la ligne rouge.
Ce week-end sur BFM Business.
Les blocs de peuplement qui sont d'un côté seraient préservés, et par contre, ceux qui voudraient être du mauvais côté de la ligne se retrouveraient dans un État palestinien.
Simplement, ce sont des politiques très difficiles, parce qu'il y a une espèce de dynamique sur place. C'est-à-dire, on imagine que les gens sur place ne vont pas bouger. Alors, bien sûr, les acteurs sur place vont bouger. À l'époque coloniale, internationale, les gouvernements disaient aux armées en train de coloniser l'Afrique, par exemple, vous arrêtez là. Ils n'arrêtaient pas là, ils avançaient. Et les colons vont continuer à avancer, ne serait-ce que pour agrandir leur sécurité. Donc, c'est une situation extrêmement dangereuse.
Que fait le droit international? Parce que c'est une violation, clairement, du droit international. Quand on écoute les Israéliens, ils disent, voilà, il y a des colonies reconnues et des colonies sauvages. Mais en fait, elles sont toutes illégales au regard des normes internationales.
Oui, mais attendez, premièrement...
Vous avez signé l'histoire du monde pour les nuls,
qu'est-ce
que vous dites?
Oui, mais premièrement, il y a des actions. D'ailleurs, Mahmoud Abbas a évoqué la saisine des tribunaux. Donc, ils vont saisir les tribunaux.
Voire de la CPI à terme.
De la CPI à terme, vous avez raison. Ou plutôt même de la Cour internationale de justice. On ne manque pas de juridiction pour condamner Israël. Simplement, Israël a déjà été condamné, ça ne gêne pas. Je vous rappelle notamment, on a demandé à la Cour internationale de justice un avis sur le mur, et la Cour internationale de justice a répondu très clairement que le mur était illégal. Le mur a quand même été construit.
Toujours là. Pays frontalier d'Israël, et n'oublions pas la Syrie, toujours en guerre, et tout au nord, Al-Bab, on est dans le nord-ouest du pays, la Turquie affirme que les rebelles qu'elle soutient progressent face à l'État islamique dans son bastion. Les troupes du régime de Damas, elles ne sont pas très loin, ce qui fait que les djihadistes sont encerclés. Alors la prochaine cible, elle est désignée, écoutez, le ministre turc des Affaires étrangères.
Notre prochaine cible en Syrie sera l'opération de Raqqa. Et cette opération doit se faire non pas avec d'autres organisations terroristes, mais avec les bonnes personnes.
Ouais. Alors Raqqa, c'est la capitale politique de Daesh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les bonnes personnes? Où on en est, François Hesbourg? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas évoqué détail la Syrie, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'investiture de Trump qui nous a beaucoup mobilisés.
Pour traduire ça du turc en français, les mauvaises personnes, c'est les Kurdes. les bonnes personnes, ce sont celles qui ne sont pas kurdes.
Les Kurdes sont nécessaires.
Et les Turcs, bien entendu, sont nécessaires pour empêcher que les Kurdes ne s'y mettent. Souvenez-vous, sur nos antennes et les vôtres, il y a quelques semaines, on voyait des porte-paroles de l'émanation en Syrie du PKK, du Parti communiste kurde, qui annonçait qu'ils allaient lancer l'offensive sur Raqqa. Ouais, ouais. Et avec l'aide de leurs, entre guillemets, amis américains. Ouais. Amis américains qui avaient d'ailleurs tout de suite réagi en disant pas de salisette, parce qu'évidemment, Raqqa, c'est une ville arabe, vraiment arabe. C'est pas simplement la capitale de Daesh. Ouais. Et,
alors, les Turcs ne sont pas arabes, les Kurdes non plus. Alors, qui sont les bonnes personnes pour libérer Raqqa?
Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, à part les rebelles syriens dont se prévalent les Turcs. Ça, c'est leur manteau de légitimité. mais le fait est que les rebelles syriens, ils sont quand même un petit peu à la ramasse en ce moment. Donc derrière la lutte contre Daesh, il y a le problème de la représentation politique et militaire des sunnites qui reste toujours posé. C'est pour ça que nous nous retrouvons pratiquement 3 ans après la chute de Raqqa, puisque ça fait 3 ans que les gens de Daesh
sont à Raqqa,
En fait, on ne parvient pas à libérer Raqqa. Ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. Raqqa, ce n'est pas Mossoul. Mossoul, c'est compliqué. C'est une très très grande ville.
Juste un mot, je vous donne la parole, Philippe Morin-Desfarge, mais justement, toujours avec François Hesbourg, le stratège. Dans l'hypothèse où Mossoul, en Irak, tomberait, Daesh cherche à se replier sur Deir ez-Zor, justement. C'est ça la porte de sortie pour les troupes islamistes?
Deir ez-Zor, c'est un peu compliqué, parce que Deir ez-Zor, il y a toujours des troupes de Bachar qui sont dans une partie de l'arrondissement et qui était d'ailleurs en bonne entente avec Daesh, parce que il y a trois ans et demi, Bachar avait besoin de soldats pour aller se battre contre les rebelles côté méditerranéen de la Syrie, et donc ils avaient refilé les puits de pétrole à Daesh, mais en contrepartie Daesh vendait le pétrole à Bachar et pour gérer le Barnum, il fallait garder des soldats à Deir ez-Zor. On est au Moyen-Orient, rien n'est simple, rien n'est comme dans les réseaux sociaux.
L'élément un peu nouveau, et François Hesbourg l'a mentionné, ce sont les Kurdes. C'est-à-dire que les Kurdes tiennent une occasion historique. C'est-à-dire que je serais kurde, je me dirais, j'ai l'occasion de créer mon État. C'est clair. Ce sont quand même eux sur les combats qui sont très présents, qui se battent, et ils veulent quelque chose comme un État. Alors, c'est clair que la Turquie n'en veut pas, je pense pas que la Syrie en veuille, et d'autre part, les Kurdes eux-mêmes sont divisés entre eux. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de pari kurde de dire, c'est mon occasion historique.
Quel jour.
Il peut marcher ou il ne peut pas marcher.
Alors, la Syrie, avec ses récits terribles, encore cette semaine, ce venu de la prison militaire de Sennaya, près de Damas, information d'Amnesty International, qui raconte que jusqu'à 13 000 détenus auraient été pendus entre 2011 et 2015, après avoir été accusés, à tort ou à raison, d'être des opposants, après avoir été humiliés, après avoir été torturés, un véritable abattoir humain. Écoutez ce rescapé.
À Sennaya, tu n'es pas autorisé à ouvrir les yeux quand un garde entre dans la pièce. Tant qu'il y est, tu dois te couvrir les yeux comme ça. Tu n'as pas le droit de le voir, sinon le châtiment, c'est la mort. Si tu découvres tes yeux, même si c'est accidentel, il t'exécute directement.
Bon, c'est pas la première fois que le régime de Bachar al-Assad est accusé de la sorte, il nie à chaque fois. Est-ce qu'il sera un jour poursuivi, François Hesbourg?
Il est en train de gagner sa guerre, avec l'aide des Russes et l'aide des Iraniens et l'aide du Hezbollah. Et c'est... les entités que je viens d'évoquer... avaient un objectif précis et se sont donné les moyens militaires de l'atteindre. Les Occidentaux ont fait semblant de vouloir renverser Bachar et on ne s'est pas donné les moyens de le faire. L'inconséquence, ça se paye cash en stratégie et malheureusement pour les Syriens, ça se paye par le sang.
François Hedbourg, je serais un petit peu désagréable avec François Hedbourg, c'est que la justice, ça prend beaucoup de temps.
Et donc,
Bachar el-Assad, malgré tout, c'est, ce qu'il a fait, c'est, ce sont des crimes à l'égard de son peuple. Attendons, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'est pas si vieux que ça, Bachar el-Assad. Il peut être jugé à 80 ans. Mais ça peut arriver. Je vous rappelle, il y a beaucoup de gens qui sont jugés à 80 ans.
Où est-ce qu'on en est justement des négociations de paix en Syrie? Il y a un prochain rendez-vous à Genève le 20 février. Ce sera la suite d'Astana au Kazakhstan de fin janvier, avant un sommet pour Poutine-Erdogan, donc à Moscou début mars, avec toujours des Européens absents.
Il ne peut pas y avoir de négociations de paix. Pourquoi? Les négociations de paix, les seuls résultats, c'est que Bachar el-Assad soit reconnu comme le patron de la Syrie. Bon. Donc, c'est pas de négociation. Et pour le moment, Bachar el-Assad n'est pas capable, probablement, d'asseoir son autorité sur la Syrie comme il le souhaiterait. Et puis, il y a les Kurdes, etc. Je vous rappelle que dans les guerres civiles, car c'est une guerre civile à un certain côté, il n'y a pas de négociation. Il y a un vainqueur et un vaincu. Et Bachar el-Assad, il veut être vainqueur totalement. Et les Russes ne sont peut-être pas capables de lui apporter cette victoire dont il a besoin.
François Hedbourg, des Européens absents, je le disais, mais qui malgré tout cherchent à exister au travers du financement de la reconstruction du pays. Sauf que Jean-Marc Ayrault, au nom de la France, met un préalable, pas un sou sans des réformes et un départ de Bachar el-Assad.
C'est quand même extraordinaire. Et vous êtes Poutine, vous bombardez Alep. Et ensuite, les Européens vont reconstruire Alep. Vous trouvez pas ça génial, ça? Et quand les Russes ont détruit Grozny, au moins, ce sont les Russes qui ont reconstruit Grozny. Et il y a une règle de base, quand même, en politique internationale, c'est, pour parler anglais, parce que c'est dans ces termes-là que ça se posait en Irak en 2003, c'est « you break it ». You keep it. Vous le cassez, vous le gardez. C'est à vous. Hein, c'est à vous de ramasser les morceaux. La notion que le contribuable européen soit appelé pour exister, pour que l'Europe existe, de réparer les dégâts causés par les Russes et les Iraniens en Syrie, personnellement, je trouve ça... Le mot déplaisant est un peu faible.
On a compris. Quand vous êtes impuissant, vous finissez par payer.
Bah oui.
L'Europe paye du service à l'acheter son impuissance.
Juste un mot sur la Russie. Hein. Vladimir Poutine qui apparemment fait le ménage parmi ses opposants en vue de l'élection présidentielle de l'an prochain, l'élection 2018. Alexei Navalny, candidat, il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. Sursis donc également pour sa candidature, j'imagine, François Hedbourg.
Oui, il y a des chances. Et Poutine a surtout, d'ailleurs, on l'a moins remarqué, il a fait le ménage dans son entourage immédiat. Il s'est mis en ordre de bataille pour gérer les élections présidentielles 2018. Poutine est quelqu'un qui calcule. C'est un homme des rapports de force. Il veut que cette élection ait lieu, qu'avec les résultats, évidemment, qu'il escompte, alors que l'économie russe va très mal. Moi, je ne serais d'ailleurs pas forcément surpris qu'il anticipe les élections. C'est pas impossible, il a le droit de le faire.
Il y a un air du temps. Il y a un air du temps. Aujourd'hui, les hommes forts sont à la mode. Erdogan est à la mode, Poutine est à la mode, Trump est à la mode. C'est pour ça, pour revenir aux États-Unis... C'est pour ça qu'il est important qu'à un moment donné, quelque chose casse cet homme. Et c'est pour ça que ce qui se passe aux États-Unis, c'est particulièrement important. Mais aujourd'hui, les hommes forts peuvent faire ce qu'ils veulent.
On continue, 7 jours dans le monde. Dans un instant, est-ce que le social-démocrate Martin Schulz pourrait battre Angela Merkel lors du scrutin donc du mois de septembre en Allemagne? On va retrouver François Hedbourg et Philippe Moreau-Desfarges dans 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé et à la radio. A tout de suite, bon week-end.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pendant encore quelques minutes avec Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, et François Hedbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique. On parlait de l'élection russe il y a quelques instants. Alors, autre élection majeure d'ici là, donc d'ici 2018, après la France, ce sera au tour de l'Allemagne en septembre, élection générale. Angela Merkel, est-ce qu'elle va rempiler pour un
quatrième mandat. Est-ce qu'un social-démocrate pourrait lui succéder? Parce que ce social-démocrate, il a un nom, c'est Martin Schulz, hein, l'ancien président du Parlement européen. Alors tous les sondages montrent récemment que l'écart se resserre avec la chancelière CDU, mais l'un d'eux, pour Bild notamment, donne le SPD gagnant. 31% contre 30% donc à la droite. Françoise Bourg, alors 2017, année de surprise apparemment dans les différents scrutins européens, sur le continent européen pour les élections. Est-ce qu'une autre surprise pourrait venir d'Allemagne ?
Alors, je suis très divisé. Hein. Généralement, j'essaye d'avoir des opinions qui ne soient pas simplement des réponses de Normand. Mais là, je donne une réponse de Normand. Normalement, Madame Merkel redeviendrait chancelière, probablement dans le cadre d'une grande coalition CDU-SPD. Mais il y a ce qu'on appelle la malédiction des 8 ans qui pèse. Schröder, il a fait 8 ans. Kohl, il a fait 8 ans. Et dans beaucoup de pays qui sont dirigés par des premiers ministres, alors le Royaume-Uni de Thatcher, par exemple.
Et même en France, De Gaulle.
Oui, mais il n'était pas premier ministre.
Non, il n'était pas premier ministre. La bénédiction des 10 ans.
Dans des systèmes parlementaires où le premier ministre n'est pas élu au suffrage universel, et en général au bout de 8 ans, et le système lui-même s'est dit, il est peut-être temps de changer. C'est quelque chose de très diffus, de très difficile à saisir, mais dans l'entourage de Mme Merkel, moi j'entends des gens qui me disent « Oui, oui, c'est comme la fin de Kohl. » Et donc je vous fais une réponse de Normand. Et en analyse 3, je dirais « Elle va être réélue. » En tant qu'être intuitif, je dirais « Ça sent pas très bon pour elle. »
Pardon, j'ai un doute. On en est au troisième ou quatrième mandat, là ?
Quatrième
mandat. Ah oui, c'est ça. Oui, donc ça fait 12 ans, même. Voilà.
Oui, oui. Non, mais moi, je vais aller plus loin que Françoise Bourg, parce que
c'est très curieux.
Non, vous avez raison.
Moi, j'aurais pas parlé de la malédiction des 8 ans. J'aurais parlé des 10 ans. Et Françoise Bourg, quand il mentionne 8 ans, a peut-être pensé qu'aux États-Unis, je vous rappelle qu'il y a deux mandats. Mais je pense qu'il y a une usure du pouvoir. Et je pense qu'au-delà des premiers ministres qu'évoquait Françoise Bourg, je pense qu'au bout de 10 ans, et on peut appliquer ça à beaucoup de domaines, au domaine artistique, au domaine de la création littéraire. Au bout de 10 ans, il y a une usure. Et je pense que Martin Schulz peut tout à fait gagner. Il y a une autre raison pour laquelle il peut gagner, c'est que sa politique ne sera pas très différente de celle de Mme Merkel.
Alors, justement, pourquoi la même politique ? Martin Schulz, 61 ans, comme ça, il donne des ailes au SPD, ce qui bénéficie d'une sorte d'état de grâce, d'une prime à la nouveauté après le renoncement de Sigmar Gabriel. C'est quoi ses atouts, justement ? Tiens, alors, Françoise Bourg.
Son atout est négatif. Il n'a pas fait partie de la coalition à CDU-SPD des 4 dernières années. Parce que pour le reste, ses qualités personnelles ne sont pas plus éminentes, pour être gentil, que celles de Sigmar Gabriel.
Je vais lui donner un autre atout, c'est qu'il a été président du Parlement européen. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, l'Europe n'est pas très populaire. Mais je pense que cet homme s'est peut-être mis dans la tête qu'il était là pour redonner à l'Allemagne une image de bonne européenne. Et je pense que ça peut lui donner un certain élan de dire « j'ai une mission ». Qui est de refaire une Allemagne qui apparaisse comme une bonne européenne. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Martin Schulz et qu'il a toutes ses chances.
Pourquoi Angela Merkel, elle serait menacée ? C'est sa politique des migrants qui lui colle à la peau, Françoise Bourg ?
Oui, mais n'oubliez pas une chose, on n'élit pas un Premier ministre ou un chancelier. Et on élit un Parlement dont va être issue une coalition. C'est ça le système allemand. C'est pour ça que je fais la distinction entre les premiers ministres et les parlements. Martin Schulz, je pense qu'effectivement, son principal atout, c'est de ne pas avoir fait partie de la coalition précédente. Mais à la sortie, effectivement, c'est l'usure du pouvoir. Le terme est assez bien choisi. Est-ce que Mme Merkel en a terriblement envie? Et bon, elle a fait savoir il y a déjà un moment qu'elle allait conduire la CDU à la bataille.
Pour une quatrième victoire.
Mais il n'est pas clair que le cœur y soit.
Et Martin Schulz, il proposerait quoi en politique sur les migrants, par exemple, qui reste quand même le point, je vais dire,
là-dessus, il n'y avait pas de désaccord fondamental entre elle et lui. C'est pas de là que va venir une rupture de la politique.
Je vais ajouter un autre argument, c'est que l'Allemagne n'aime pas les hommes providentiels. Elle en a eu un, et je pense que dans la République...
Ah, c'était Kohl
Non, je parle d'Hitler.
Ah oui, d'accord, pardon.
Mais ce que je veux dire, c'est quand vous regardez l'histoire de la République fédérale depuis 1949, l'Allemagne peut, alors c'est le système parlementaire, peut se débarrasser assez brutalement d'un homme providentiel. Et je pense que la fin d'Adenauer était assez triste, et même la fin de Kohl est assez triste, c'est qu'il y a un moment donné où le système éjecte la personne. Et ça peut arriver pour Mme Merkel. Ça peut tout à fait arriver pour Mme Merkel.
La malédiction des 12 ans, là, pour le coup, plus dur que prévu. Donc, en attendant, Angela Merkel, elle tente de rassembler son camp. Les alliés bavarois de la CSU, qui lundi se sont rangés derrière la chancelière. Pas forcément facile, pas forcément évident. François Hesbourg, pour en quelque sorte ces frondeurs qui n'ont pas du tout apprécié la politique migratoire de Merkel.
C'était pas facile, mais c'était évident, si je puis dire. Parce qu'à la sortie, il y a la bombe atomique, c'est-à-dire si la CSU bavaroise rompait avec la coalition, la réponse de Mme Merkel aurait été « Dans ce cas-là, je présente des candidats de la CDU partout en Bavière,
partout, y compris dans le sud,
et vous allez perdre votre monopole du pouvoir et vous serez mort. La CSU sait faire ses calculs aussi bien que Mme Merkel, et donc l'issue, elle, ne faisait aucun doute.
Elle n'aura pas apporté des garanties particulières. Ça va ressembler à quoi, la politique de Merkel pour aller ces derniers mois, et puis éventuellement son programme pour les quatre prochaines années. Plus à droite ?
Oui, plus à droite, parce qu'elle est quand même très critiquée pour sa politique à l'égard des migrants. Elle, si vous voulez, elle est tiraillée entre, d'un côté, son souci d'apparaître comme plus à droite sur les migrants, mais il va falloir, et là, il y a une autre chose que Mme Merkel et que M. Schulz, il va falloir que l'Allemagne apparaisse comme une bonne européenne. N'oubliez pas qu'on est dans une crise grave de l'Union européenne avec le problème de l'élection présidentielle en France. Et une grande inquiétude que Marine Le Pen puisse être la prochaine présidente de la République.
Et on voit donc, comment les marchés commencent à s'agiter, voilà, bien sûr.
Donc il faut que l'Allemagne fasse des gestes forts pour le monde qu'elle est une bonne européenne, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur l'Europe allemande. Etc. Donc ça va être le grand défi.
Le mot de la fin, François Hesbourg.
Monsieur Trump va y apporter sa contribution. Il est en train d'aligner l'Allemagne à cause de son excédent de la balance courante, qui représente quand même 9% du PIB. C'est 4 fois plus que la Chine.
240 milliards d'excédents révélés cette semaine.
Autrement dit, la prudence la plus élémentaire de la part de l'Allemagne consistera maintenant à redéployer les moteurs de la croissance vers la conso et vers l'investissement intérieur. Parce que le risque que Trump casse le système commercial international est très élevé. Et avoir une Allemagne qui ne tourne que sur un cylindre est un risque que l'Allemagne ne peut probablement pas courir. Et les premiers propos de Schäuble sur le sujet sont d'ailleurs très intéressants. Il ne dit pas... Et il dit bien sûr que Trump a tort et ainsi de suite, mais il ne dit pas qu'il n'y a pas un problème.
Merci à tous les deux. Merci Philippe Moreau-Desfarges. On le rappelle, la géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Il est chercheur à l'IFRI, l'un des fidèles de 7 jours dans le monde, tout comme François Hesbourg, que je remercie. Allez voir également comment perdre la guerre contre le terrorisme. C'est pas forcément rigolo, mais c'est un petit livre très léger, très bien documenté, très bien expliqué. C'est signé François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Vivement le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.